Du coup, pour approfondir, continuer d'approfondir le sujet, en 2022, là, tu l'as bien dit, mais on l'a tous observé, je pense, c'est que la personnalisation des contenus, de la publicité, on en reparlera tout à l'heure, native ads, display, push notification, prospectus, c'est obligatoire pour exister et surtout pour fonctionner. Les influenceurs, eux aussi, s'adressent à des communautés extrêmement précises. Alors, locales, oui, mais maintenant, j'ai envie de dire international aussi. Il n'y a pas longtemps, l'année dernière, les spots TV, maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais là, en fonction de la ville, vous ne regardez pas le même spot TV sur la même chaîne. C'est quand même assez incroyable. Enfin bref, le marketing, du coup, dans sa dimension locale, il est à la fois, bien sûr, l'opportunité de développer plus d'engagement, plus de communauté envers une marque, d'augmenter aussi considérablement peut-être son business et d'avoir un impact social. Sociétal pardon, en tant que marque. Donc, en quoi la sponsorisation d'un événement, l'implication d'une marque dans une action caritative et comment la technologie permet à des entreprises locales de se créer, de se relancer ou croître, notamment via Insta, Waze, Google My Business ou autre. Le champ des possibles du coup du marketing local est super large. Pourquoi en faire une priorité en 2022 ? C'est la question qu'on va essayer de répondre tous ensemble avec donc Brieux Ferraud, tu restes avec nous pour la table ronde. J'invite Jean-Jacques à venir nous rejoindre de Vinci, Fanny de Blablacar, Thibaut de Partout qui vient d'arriver et Damien Fischetti pour cette table ronde. Merci pour eux. Ça va ? Ce que je vous propose, c'est peut-être que chacun d'entre vous se présente à tour de rôle. Je ne vais pas désigner, mais un peu ce qu'il a fait par le passé. Vous faites un peu partie de la famille YouLovers, donc je pense que le public a vachement envie de savoir aussi. Vinci, n'importe quoi. Jean-Jacques, excuse-moi.
Donc, je suis directeur du marketing de Vinci Immobilier. Donc, c'est une petite marque dans un grand groupe. On est l'accessoire du principal, c'est comme ça qu'on se définit. On fait de la promotion immobilière à la fois en résidentiel et en tertiaire. On est quasiment franco-français. On intervient un peu en Pologne, un peu à Monaco. On appelle ça l'étranger. Bon, ça nous arrange. Un des deux métiers du B2C dans le grand groupe Vinci que vous connaissez, qui est un métier qui fait du temps court, du temps long, de la concession, du contracting. On travaille un peu avec Blabla pour la partie autoroute. Sur le local, je vais vous décliner ce qu'on fait, répondre aux deux, trois questions. Et d'abord, je voulais féliciter Brieux parce que ton exposé était passionnant. En si peu de temps, ouvrir autant de pistes de réflexion, c'est impressionnant. Et moi, je me suis reconnu dans beaucoup de sujets parce qu'on dit qu'on pense la ville de demain, donc on est un assemblier urbain. Et c'est vrai qu'on a plein de problématiques qui rejoignent tout ce que tu as évoqué, donc je serais très intéressé à partager avec toi.
Bonjour à tous. Moi, je connais Inès depuis quasiment 10 ans. Donc, c'est marrant qu'on se recroise ici. Le monde est petit. Moi, je suis le CEO de Partout. Partout, c'est une scale-up, on peut appeler ça comme ça maintenant. On est 350. Et notre rôle, c'est d'accompagner tous les grands retailers, grands distributeurs, ceux qui ont des points de vente, mais aussi les petits commerçants sur tous les sujets locaux. Donc, on va avoir une brique tout autour de Google Maps, Google My Business et les autres plateformes comme Waze, etc. On gère 200 000 points de vente partout dans le monde. 50% en France, après on est présent en Amérique latine, au Brésil, partout en Europe. Ensuite on gère tous les sujets de e-réputation, donc on gère des dizaines de millions d'avis pour les Carrefour, les Leroy Merlin, enfin tous les réseaux que vous voyez. Et après on a plein d'autres produits, des store locators, on fait aussi la centralisation des messages Facebook, WhatsApp, Google, et plein d'autres choses. Et on est en forte croissance, on double chaque année, donc on espère être 500 collaborateurs fin d'année.
Bonjour à tous, Fanny, je travaille chez BlaBlaCar depuis 3 ans. Moi, je suis en charge des stratégies marketing pour la France et l'Espagne et en charge aussi de tout ce qui est CRM et social media. Moi, je connais Grégory avec qui j'ai travaillé chez Deliveroo parce que je travaille chez Sarenza et 3 ans chez Deliveroo. Et en fait, en préparant cet atelier, je me suis rendu compte que j'ai toujours fait de la localisation marketing. Chez Sarenza, je travaillais pour le site suisse et donc c'était une marque française qu'on essayait d'implanter en Suisse. Deliveroo, c'était une marque anglaise qu'on essayait d'implanter en France. Et BlaBlaCar, donc c'est français, c'est une marque internationale aujourd'hui. C'est comment en fait tu as cette marque internationale, cette marque locale. Et comme disait Brieux, à 35 000 communes en France et partout il y a une ville, on peut y aller en BlaBlaCar. Donc nous, on est sur de la localisation au maximum. Je connais bien le sujet.
Bonjour Damien, moi je travaille chez Phoenix Group, je m'occupe en particulier d'un programme qui s'appelle Phoenix Channels, en fait, qui est tout l'aspect programmation éditoriale et des partenariats de contenu qu'on fait avec des éditeurs ou des talents. En fait, fait, Phoenix Group, c'est un spécialiste de la communication extérieure. Moi, je venais pas du tout de ce milieu-là parce que j'ai bossé 10 ans chez Universal Music avec Grégory aussi, où en fait, je m'occupais du digital d'un label comme Barclay et ensuite de Polydor. Mais en fait, j'ai retrouvé des vraies similitudes parce que on devait raconter des histoires et savoir les adresser et trouver un public par rapport à des artistes. Et finalement, c'est aujourd'hui ce qu'on essaye de faire aussi sur des sociétés comme de communication extérieure. Et ça sera le sujet un peu qu'on pourra traiter tout à l'heure.
Je te représente pas Brieux, mais en tout cas, je suis hyper contente de vous avoir lors de mes échanges un peu préparatifs avec certains de vous. Il y a un premier sujet qui est ressorti et que je voulais poser ensemble, c'est que les actions marketing finalement qu'on peut mener à niveau à échelle locale versus nationale et quel que soit finalement le rapport de la localité à ce moment-là, elles permettent d'avoir aujourd'hui, on a une promesse qui est plus d'engagement, que les campagnes vont mieux performer, qu'elles vont avoir en fait plus de portée versus du volume, je pense au TV, à l'affichage, etc. Est-ce que vous trouvez que c'est le cas aussi justement que quand on mène des campagnes plus ciblées, en fonction de vos métiers bien sûr et de vos expériences, eh bien on arrive finalement à avoir une portée et à toucher beaucoup plus de monde que si on était dans une communication plus globale. Fanny, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, ce qui est sûr, c'est quand tu adaptes au local, tu vas avoir une meilleure attention en fait, du message. C'est-à-dire que le message, au lieu d'être un message one to many, un one to few, déjà, tu sens si c'est hyper localisé, on parle à moi en fait. Ce n'est pas juste de la pub, c'est on parle à moi. Donc, j'ai une attention particulière. Et ensuite, j'ai une meilleure mémorisation parce que dès que je vais avoir quelque chose d'assez local qui fait rire, je pense à ce que disait Brieux sur SoFoot, là, tout de suite, que tu disais, ça me parle au cœur. Et donc, c'est là où, en fait, la mémorisation va être meilleure. Si tu as l'attention, les mémorisations qui sont améliorées, tu as l'engagement par rapport au message qui est plus fort et donc toutes tes conséquences positives derrière. Donc, c'est là-dessus où, par exemple, chez BlaBlaCar, l'année dernière, on a essayé de jouer sur quelque chose de local, de région. Donc, on n'est vraiment pas... les gens qui utilisent BlaBlaCar, le covoiturage principalement, ce n'est pas les urbains, hein, c'est plutôt les gens qui vivent en région, qui ont besoin de se déplacer beaucoup. Donc, on n'est pas sur... de l'urbain pur, et donc on essaie de trouver quelque chose de régional et un peu des conflits qui font rire, parce qu'en fait les débats en covoiturage c'est ça, et on est allé sur le pain chocolat, chocolatine, et donc on a diffusé une notion de vous pouvez bien laisser dire à votre passager chocolatine pour un blabla car, donc c'est ok. On ne l'a pas diffusé dans le sud-ouest, bien sûr, on l'a diffusé partout ailleurs pour ne pas créer d'émotions fortes. Mais c'est ce type de choses qui retient l'intention, fait de la conversation, et donc tu as l'impression que ton message passe mieux, en fait. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question de « je touche plus de monde », mais en tout cas, les gens qui vont le voir sont plus engagés, et donc en fait, tu es plus efficace. Donc c'est pas forcément, tu vois, je ne sais pas si le volume, quelqu'un a peut-être une réponse, moi c'est plus sur la mémorisation du message.
Jean-Jacques, vous avez un programme immobilier qui va sortir, est-ce qu'il y a une volonté de toucher spécifiquement des populations ? Comment, au-delà de le mesurer, mais comment une campagne locale d'un programme immobilier, sa communication, elle est réussie pour vous ?
Alors, par nature, nous, le programme, il n'est pas délocalisable. C'est-à-dire ouais. qu'il est construit sur une emprise foncière, un endroit T, donc un endroit donné, un instant T, et il correspond à un besoin. Là où on fait le switch entre nationaux et régionaux ou local, c'est plus dans la cible des clients. On a deux grandes typologies de clients. On a celui qui va acheter un appartement pour y habiter. Donc, lui, la question ne se pose pas. Il veut habiter côté père de l'avenue du Général de Gaulle de telle commune, parce que c'est là qu'il veut construire sa vie avec tout ce que ça représente. Et à contrario, on adresse aussi notre offre pour des investisseurs, des gens qui achètent pour louer, donc avec une arrière-pensée beaucoup plus patrimoniale, moins d'affect, raisonnement purement financier. Clairement, de toute façon, pour faire la promotion de cette opération, que ce soit en local ou au national, il faut raconter l'histoire. Et c'est pour ça que tout ce que tu disais, ça m'intéressait. Et on a aussi un double degré de lecture, c'est que nous, on s'adresse à des parties prenantes qui sont très larges. On n'adresse pas notre offre qu'à des clients, parce qu'on a une chaîne de valeur où on doit aussi, sur le marché local, marquer les esprits. Marquer les esprits d'abord du maire, parce que c'est lui qui délivre le permis de construire. Et donc, il faudra opérer aussi un retour d'expérience en faisant en sorte que le bilan soit positif. Parce que lui, il a délivré un PC à ses administrés. Si tu livres une saucisse et que derrière, tous les gars te disent « ton opération, c'est une merde », t'es fini, t'es grillé, t'es mort. Donc, voilà, pour rejoindre ce que tu disais, la notion d'affect et d'identification du produit local, il est forcément 100% localisé. Et après, la surcouche du national, elle est plus en réassurance et de marque et d'explication et de drague sur un projet avec des thématiques très larges sur l'environnement, etc. Oui, parce que tu racontes pas la même histoire à quelqu'un qui va acheter un appartement 300 000 euros pour y vivre et construire sa vie de famille, où tu vas parler d'usage, tu vas parler d'environnement, de qualité de vie de quartier, de communauté. Il y a une autre instance, tu disais, la copro. Nous, on construit des résidences verticales, principalement. Donc, ça veut dire que tu crées aussi un ensemble de relations humaines qui vont partager leur quotidien, etc. Alors, il y a, par exemple, sur la mixité sociale, c'est un vrai débat. Quand tu fais une opération de 70 lots, 80 lots, avec des prix qui tapent, généralement, c'est un client sur deux achète pour habiter, un client sur deux pour investir. Et à côté, il y a un quota dit social, puisqu'on a une réglementation en France qui impose d'avoir une mixité sociale et d'avoir un droit de tirage sur ces opérations pour faire du logement éligible au social. Comment tu racontes l'histoire que toi, tu as acheté 4000 euros du mètre carré et qu'à côté, il y a quelqu'un qui va l'acheter avec un prix à 3002, voir que c'est une foncière qu'il a achetée et qui va mettre des gens avec des loyers modérés qui vont être 30% moins chers que le marché, tout en ayant en sorte qu'il n'y ait pas de défiance sociale, de rejet, d'approche un petit peu sécuritaire. Donc voilà, c'est un mix entre les deux. Pour nous, c'est vraiment une question de dosage et surtout de raconter une histoire en local. Voilà, très affect, c'est l'opération, il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est top. Et puis pour les investisseurs, là on va plus sur le registre de l'économie en disant bah, c'est une métropole attractive, transport, université, etc., etc.
Tiens, en fonction de la cible, toi justement Thibaut, vu le nombre de clients que vous avez, qui viennent bah, pour augmenter leur performance, leur référencement local, leur réputation, pour toucher finalement les cibles autour d'eux, est-ce que justement ils ont une volonté de toucher le plus large, le plus vaste, tu vois, le périmètre, ou au contraire, chercher les points spécifiques qu'ils n'ont pas réussi à atteindre autrement?
Je pense qu'il y a des messages qui se passent en local et des messages qui se passent en centrale. Nous, on a énormément de problématiques autour de, par exemple, les pages Facebook, on en gère des dizaines de milliers pour plein de types de secteurs. Hein, et si je prends une société qui n'est pas client de partout, comme la FNAC, eux, ils vont se poser la question, quels sont les messages que je passe avec la page Facebook de la FNAC qui a des millions d'abonnés versus ce que je passe au local, c'est-à-dire les pages locales Facebook. Et très simplement, les messages, ils sont beaucoup plus puissants quand ils sont passés sur la page centrale, la FNAC. Donc si je parle de produits, même chez Leroy Merlin, chez Casto, qui sont, eux sont clients, on voit la portée de la page centrale. Après, nous, ce qu'on on essaie de leur dire à tous ces clients, que ce soit dans la grande distrib, que ce soit dans l'immobilier, c'est en fonction de la portée du message, en fonction de la maturité du réseau, on va donner la main au local pour que le local dans l'IMO, il va faire un post Google Post où il va me poster une photo de son équipe, etc. Et en fait, je pense que plutôt, il y a le débat de la portée et il y a le débat de la complémentarité. Et nous, à un moment, alors on a changé un peu de tagline, mais c'était le pouvoir de la collaboration, puisqu'en fait, on a des milliers, des dizaines de milliers d'utilisateurs en local, des pharmaciens, etc., qui ont notre app, et ils vont se prendre en photo et vont dire, là, c'est mon équipe, ou ça, c'est je sais pas, une maraude qu'on a fait, ou on a mis une place de parking, ou enfin, je sais rien, plein de trucs hyper locaux. J'ai fait test COVID, etc. Et ça, je pense que plus que la portée, vraiment le sujet, c'est la complémentarité, la formation, la conduite du changement local, parce que c'est sûr que peut-être que les postes, ils sont tous changés un peu différemment, mais pas forcément adaptés, et qu'on n'investit pas sur des milliers de pages locales Facebook, par exemple. Je pense que c'est pas forcément la meilleure technique. Et donc, parfois, il faut faire ses choix de bataille et se dire, OK, Facebook, je vais pas faire local, ou je vais faire local, versus je vais investir dans d'autres. Enfin, après, c'est un sujet très, très, très vaste.
Ouais. C'est vrai. C'est la difficulté du sujet de l'après-midi, c'est qui est assez vaste. Moi, ce que je retiens par rapport à ton introduction et même les échanges qu'on vient d'avoir, c'est que c'est la nécessité des marques, finalement, à être claires dans le contenu et dans le message par rapport aux populations qu'elles sont ciblées. Tu parlais de Puma et de l'OM, d'être clair dans le message, ou du Paris Saint-Denis de Hitch. Pareil, quand tu disais il faut que ça suscite l'émotion, en tout cas que le contenu soit bien adapté, pain et chocolatine. Justement, le sujet du coup du marketing local par rapport aux campagnes marketing locales, ou quand on vise vraiment soit une population, soit un produit donné. Là, j'enchaîne, on va dire, sur le sujet un peu business. On cherche de plus en plus à s'entourer de solutions comme les vôtres, messieurs, pour accroître son chiffre d'affaires, sa visibilité, etc. Finalement, c'est donc un peu mon point business, c'est de savoir qu'est-ce que peut apporter une stratégie de marketing local. Concrètement, c'est quoi les KPI qu'on regarde? Damien, peut-être les campagnes que tu as fait récemment, tu me partageais encore pour Evian ou autre, pourquoi ils viennent te voir spécifiquement versus une campagne plus globale, etc. Qu'est-ce que tu as à leur offrir comme objectif et comme ROI?
Déjà, quand on parle de marketing local, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une bonne connaissance du local. Je pense que c'est un point, on est quand même dans un pays qui est très centralisé, que ce soit tous les grands sièges sociaux sont la plupart à Paris, etc. Et finalement, pour pouvoir traiter des sujets en local, il faut faire appel à des gens qui travaillent en local, que ce soit des régies au niveau local, que ce soit des agences, même créa au niveau local. Et c'est un point hyper important et c'est la première chose qu'on apporte déjà au sein d'un groupe comme Phoenix, c'est le maillage qu'on va avoir sur tout le territoire. Et on voit à quel point c'est difficile d'avoir un maillage complet. On n'aura jamais un maillage à 100% du territoire. On a vu le nombre de communes que la France pouvait avoir. Et du coup, on leur apporte quand même un maillage sur tout un territoire. Et surtout, il faut savoir que les trois quarts de nos salariés, ils sont en province. C'est des gens qui ne travaillent pas à Paris. Au siège social, il va gérer vraiment toute la partie marketing nationale et les grandes campagnes nationales. Mais en revanche, la majorité de nos salariés, ils sont au niveau local. Donc déjà, c'est d'avoir une très bonne connaissance du local. C'est la première chose qu'on peut amener. Et c'est le point le plus important parce que, on a parlé beaucoup de spécificités, d'aspirations qui sont différentes par rapport à telle ou telle région. Et pour arriver à bien les traiter, faut bien les connaître. Et moi, j'étais parisien toute ma vie. Depuis 2 ans, j'habite à Rouen. Je vois bien que c'est une vie totalement différente et que ça n'a strictement rien à voir. Et je suis arrivé avec mon prisme de parisien. Je me suis dit, si j'ai à traiter des sujets de marketing local ou de contenu en local, si je traite avec ma vision de parisien, finalement, je serais presque hors sujet, quoi. Donc ça c'est la première chose. Oui, c'est d'avoir une vision locale et mine de rien quand on habite Paris et franchement d'être maintenant un néo-provincial, je m'en rends compte, c'est difficile vraiment de sortir sa vision qu'on a par rapport à quand on a habité toute sa vie Paris. Et je le ressens vraiment à titre personnel. Et après il y a plein d'études qui le montrent et je pense que la présentation de Brieux montrait exactement ça. Et c'est ça, là, déjà, la plus grosse complexité. Donc, c'est vraiment de pouvoir accompagner le local, mais du coup, avec les acteurs locaux. Et c'est un point ultra important. Donc, déjà, quand on parle de marketing local, c'est de pouvoir amener des solutions qui sont locales. Et d'où l'importance aujourd'hui d'avoir une décentralisation des fonctionnements, que ce soit du côté des chaînes annonceurs, du côté des régies. Et c'est la force de médias comme l'affichage, comme la radio, comme la PQR, d'avoir cet ancrage local. Du coup, de bien connaître les acteurs locaux, de connaître les attentes, d'aussi de connaître le pouvoir d'achat en fonction de tel ou tel lieu, c'est des choses qui sont importantes. C'est-à-dire, voilà, on va parler de KPI, évidemment, il y a tout ce qu'on va ramener en termes de trafic, d'audience au sein d'un magasin, d'un point de vente, etc. Et le chiffre d'affaires, du coup, qui va pouvoir en résulter? Mais ça va être différent dans l'approche d'une région à une autre, parce que les niveaux de vie ne sont pas les mêmes, les salaires ne sont pas les mêmes, etc., etc. Donc finalement, les KPI sont pratiquement à adapter en fonction de chaque territoire.
Différent en fonction des régions, et donc tu le penses au niveau régional, ou là je parle de dessiner des frontières départementales, de rue, tu vois?
Alors ça va dépendre. En fait, quand on regarde un peu à hauteur d'homme, finalement, on va se rendre compte que ça peut être différent de quartier, d'un quartier à l'autre. Ça peut être différent d'une ville à une autre. Ça peut être différent d'une région à une autre. Et finalement, après, évidemment, il n'est pas possible de pouvoir tout traiter, parce que ça serait finalement de tomber dans une espèce de fourmilière et on ne serait pas efficace. Mais du coup, par rapport à son message, la pertinence de son message, on va le traiter soit au niveau d'un quartier, soit au niveau d'une ville, soit au niveau d'un département, soit au niveau d'une région.
Qui accompagne vos clients, les marques, à le définir ou justement elles viennent avec une idée précise en tête? Tu vas me dire qu'il y a de tout, mais la plupart du temps, c'est on sait qu'on a envie d'augmenter un certain KPI localement, spécifiquement, et on vient de voir, ou justement les marques elles se disent tiens, il y a un truc qui se joue en local, mais justement je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment y aller, et il faut que vous m'aidiez. Qu'est-ce que je dois regarder?
Alors, souvent, ça ne joue pas à Paris. une fois de plus, nous par exemple, et c'est vraiment deux métiers différents. Je regarde le métier par exemple, que si je prends un commercial chez nous à Paris qui va travailler avec les plus grosses agences parisiennes, et si je vois le travail d'antennes locales, de commerciaux sur des antennes locales chez nous, ils font deux métiers qui n'ont strictement rien à voir, mais vraiment rien à voir. C'est des gens, ils n'arriveraient même pas à se parler, à trouver les mêmes stratégies, etc. Donc la plupart du temps, ce que font les annonceurs, c'est qu'ils vont aller chercher des agences au niveau local pour faire des activations spécifiques au niveau local pour être le plus pertinent possible.
Il faut être une agence locale pour pouvoir prétendre à y répondre, par exemple.
Et je pense que c'est important aujourd'hui de ne pas porter les choses uniquement par son prisme de Paris et du coup de s'entourer des personnes pertinentes pour pouvoir le faire. Et que ce soit au niveau de nous, comme on le fait au niveau d'une régie comme la nôtre, ou que ce soit au niveau du contenu aussi. C'est-à-dire, moi j'avais une logique, par exemple, dans le traitement éditorial que je pouvais avoir, où j'allais prendre, on va dire, les créateurs qui avaient une vraie implantation au niveau national. Je travaille avec une vlogueuse comme Léna Situation ou un vlogueur voyage comme Bruno Maltor. Voilà, c'est des gens qui parlent sur toute la France. Mais maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller chercher des talents au niveau local. Mais ça, impossible de le faire tout seul. Je vais obligatoirement devoir créer un réseau avec des gens au niveau local pour pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment le point aujourd'hui qui me paraît primordial pour arriver à faire ça, quoi.
Ok. Et toi, Brieux, tu parlais du vrai Foot Day en introduction. Une opération comme ça, étant expliqué un peu les objectifs, mais comment vous remarquez qu'elle est réussie ? C'est quoi les KPI de « Tiens, le vrai Foot Day, ça a été réussi pour Sopress ?»
La première année, même en interne, personne ne comprend, quoi. Ils sont plus contents d'aller au Camp Nou, au Parc des Princes, faire des interviews que d'aller à la Chapelle Neuve, faire le derby des chapelles entre deux villages qui ont le même nom à 80 km l'un de l'autre, par exemple. En revanche, en deuxième année, on avait des articles relatifs au foot amateur pendant un week-end, on en a fait 25, qui performaient sur le trimestre, qui étaient dans les top, on avait peut-être 3 ou 4 qui étaient les meilleurs articles du top 10 de SoFoot. Donc en fait, la question amateur, tout le monde s'y est retrouvé, on parlait de toucher le cœur. Les anecdotes de foot amateur, tous ceux qui l'ont pratiqué, filles ou garçons, ils savent de quoi on parle. Et cette communauté-là est très importante et c'est celle-ci qui va se retrouver dedans. Donc nous, on a trouvé, au début, on ne savait pas. Enfin, on a essayé de modéliser les KPI et puis, on mesurait des trucs qui étaient à côté de la plaque, mais ce qui marchait n'était pas modélisable, c'était entre le quali et le quanti, donc on a arrêté. Plus généralement, on n'est pas trop des gens d'évaluation de notre propre travail, donc on ne fait pas des masses, on avance et puis on voit comment les autres nous renvoient un retour de ce qu'on a pu faire. Donc sur le vrai Foot Day, ça a été en deux temps. Moi, j'insiste juste sur un historique nous concernant, c'est que notre métier, la star de notre métier, ça peut être la couve, la titraille, l'humour, le sujet. Mais l'autre, c'est le marchand de presse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est celui ou celle qui va te donner envie d'aller chez lui ou chez elle pour acheter ton truc parce qu'il est marrant, elle est sympa, elle reste ouverte un peu, elle te garde un SoFoot de côté quand il pleut et que tu as envie de sortir. Toute cette relation de proximité. En France, on est passé de 18 000 points de presse à, je crois qu'on va être à 12 000 maintenant. On est à moins 6, moins 7 par an. Donc ça va vite. Le sujet sera inventé autrement. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas des magazines et des journaux ailleurs et dans sous d'autres formes en termes de mutualisation. Ça ne va pas disparaître parce que cette proximité-là. Puisque Warren Buffett a investi dans 70 médias locaux, donc nous on y croit, que ça va continuer, c'est sûr que c'est un modèle. En revanche, ça change beaucoup de choses dans le côté affinitaire, et je pense que c'est le fait qu'on a été connu par des villes qui nous ont acheté parce qu'il y avait un article sur Caen, un autre sur Nantes, près de Nantes, un autre près de Marseille, qui a fait que le jour où est arrivé Dupont de Ligonnès, qui était pour nous, avec Society, donc non-foot, une enquête de 4 ans sur Xavier Dupont de Ligonnès, qui reste un des grands mystères et qui restera un mystère de faits divers. 4 ans d'enquête où on doit le sortir en avril 2020, super inspiré, bam, confinement. On arrête tout, on ne peut pas le sortir là parce que c'est complètement con, on va se tirer une balle dans le pied. On attend 3 mois et d'un coup, en mettant, en fait, c'est les marchands de presse qui avaient. La mécanique est bizarre, c'est ceux qui nous faisaient confiance depuis le début pour SoFoot et le reste qui en ont pris beaucoup. Et eux sont devenus des stars parce qu'en fait, comme le Society s'est changé à 110 euros sur le Bon Coin, les gens, ils venaient chez eux récupérer des stocks, ils en achetaient 2. Je ne sais pas si vous avez l'expérience de vous le faire tirer en vacances, que vous le rameniez, vous ne savez plus où il est. Les colocs étaient horribles pendant les vacances, que vous ne saviez pas où était votre magazine. Ben nous, ça a été un truc, on ne peut pas modéliser ça. On savait que l'histoire et le fait divers allaient être. Pour le coup, Society a disparu derrière Dupont de Ligonnès. C'était ça qu'on voulait voir, c'était l'histoire de Dupont de Ligonnès. Que ce soit nous ou d'autres, moi je sais que ça a changé la qualité narrative, mais ce n'est pas du tout la marque Sopress qui était creusée. Mais le fait qu'ils ont connu, ils avaient vu, pour certains, je pense que ceux qui connaissaient SoFoot ont eu un temps d'avance pour récupérer leur XDDL par rapport au reste. Alors de fil en aiguille, de buzz en, en insulte, hein, on s'est fait défoncer le premier jour parce qu'on n'avait pas assez de... Ils se sont dit, bah, c'est une stratégie d'inflation, vous cherchez à tout prix à le garder pour vous, vous ne voulez pas le vendre. Si on pensait en vendre 40 000 en une journée, on en aurait tiré 300 000 sur 15 jours. Mais ça, on ne savait pas, en fait, on ne pouvait pas savoir. Donc, comme on peut s'imprimer, ça prend, même qu'on est très rapide, avec un imprimeur très rapide, 3 jours, tout le week-end, on s'est fait défoncer. Mais par contre, on savait que les retours des marchands de presse, on en connaît un paquet. Hein. Enfin, sur Paris, il y en a bien 500, 600 qu'on connaît bien, parce qu'on les avait invités au lancement de Society, ils avaient vu la première coupe de Society avant que ça sorte. Ils nous l'avaient défoncé aussi, donc on avait ajusté le truc en disant bah, « je ne vendrai jamais ça, votre truc c'est de la merde ». Donc on, comme on a initié cette discussion en permanence avec des gens dont c'est le métier de rester sous la pluie, de se faire tirer leur, leur stock, de se faire insulter, d'avoir des coups de pression en fonction des élections, des moments, c'est des métiers, il faut tenir quoi. Et bah, eux c'est notre meilleur pot parce qu'ils savent, s'ils nous disent « ça a marché ou pas », on a des raisons de leur faire confiance, c'est notre force commerciale en dehors de chez nous et c'est la meilleure.
Tu voulais rebondir
Une donnée, même si c'est de l'ordre du bon sens pour les KPI que tu évoquais, si je fais une campagne d'acquise en disant l'opération Arborescence à Angers, où je cite le produit et je l'environne et j'explique une histoire, je vais avoir un coût d'acquise qui va être 4 fois moins important que si je fais la même campagne sur le parvis de la Défense en disant il faut investir dans une résidence senior sans la citer. Tu vois. Donc, alors que les mécaniques sont les mêmes, les arguments sont les mêmes, et que le ciblage avec tu fais D2OH sur Paris de la Défense, normalement tu dis tu vas cartonner, tu vas prendre du CSP+ qui sort, qui vient de faire cet éclat d'impôt, il est comme ça, il veut investir. Donc le produit et la relation locale, sachant que comme nos opérations sont non délocalisables et que ce sont des prototypes à chaque fois, c'est-à-dire que nous on est obligé de raconter une histoire à chaque fois, donc l'ancrage local que tu expliques. Il est évidemment incontournable. C'est ce qui fait aussi la force des promoteurs nationaux, c'est de pouvoir environner. Et pour rejoindre ce que tu disais, en dehors du découpage territorial, nous, on fonctionne quasiment à la rue, hein, dans les grosses agglos, c'est qu'on arrive malgré tout à définir des grandes tendances de synergie interrégionale sur des appétences à des produits ou à des histoires qu'on raconte. Un Lyonnais, par exemple, il n'achètera jamais une opération à Nantes. Un Nantais achètera à Bordeaux. Un Toulousain n'achètera pas à Bordeaux, il achètera à Montpellier. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est étonnant. Il y a un découpage comme ça d'interactions avec des grandes agglomérations qui sont en compète. Tu as les bastons naturels entre Toulouse et Bordeaux, entre Nantes et Rennes. Et donc, il faut aussi surfer là-dessus. Et ça joint le côté granulaire de la connaissance des territoires et de. Alors, en dehors de l'étude de marché, les grands indicateurs économiques. Des tendances, plus de l'ordre de la culture. La baston entre les Alsaciens et les Lorrains fait que t'as beau avoir la plus belle opération du monde, si tu la vendras pas à un Strasbourgeois, c'est même pas un rêve. Ça, c'est marrant.
Ok, et justement, si tu dis mon coût d'acquisition sur une campagne locale, il est beaucoup moins élevé que sur le parvis de la Défense. Enfin, moi, le vrai truc que je me demande, c'est pourquoi vous continuez à faire du parvis de la Défense et on fait du 4x3 dans le métro, et etc., etc. Si on vient de se dire, depuis une demi-heure, il ne faut pas qu'on regarde avec le prisme des yeux des Parisiens, pourquoi on fait du JC Decaux et de la Défense ?
Je vais laisser Fanny répondre parce qu'elle a une profondeur d'expérience plus importante que la mienne. Juste, c'est qu'on a quand même une marque. On a une marque et on a aussi des histoires à raconter qui sont universelles où tu ne dois pas non plus opérer une déclinaison régionale. On a pris la décision stratégique chez Vinci Immobilier de s'engager à faire du zéro artificialisation net d'ici 2030, au lieu de 2050, tel qu'imposé, je vais t'expliquer, dans le cadre de la loi climat et résilience. En clair, ça veut dire quoi ? Ça fait le lien aussi avec les territoires. La loi climat et résilience dit il ne faut plus construire sur des fonciers, des terrains qui sont green, qui sont verts. Je ne peux plus construire une résidence demain dans un parc, parce que c'est un gâchis total. Je ne vais pas étendre la ville en construisant des maisons en bande à 30 km de Toulouse. Donc, il faut construire la ville sur la ville et aller chercher des terrains soit gris, c'est-à-dire intermédiaires, soit dégueux, des friches industrielles, des terrains pollués, de la réhabilitation lourde, de la transformation d'usage, de bureaux en logement. Donc, ça, c'est une histoire porte la marque et qui va aussi générer de l'appétence à nos clients qui vont se dire bah lui il est quand même respectueux et puis ça va marquer des esprits, des élus, des maires, des aménageurs, des architectes, etc. Donc la marque elle est de toute façon nécessaire, mais Fanny va en parler mieux que moi.
Je pense qu'il y a un truc de pourquoi tu ne fais pas que du local si le national ou le générique est moins efficace. C'est d'abord, est-ce que ta marque est connue au niveau local? Parce qu'en fait, je prends l'exemple de Deliveroo. Donc moi, j'ai rejoint Deliveroo en 2017. C'était super connu à Paris, mais on était à Bordeaux, Lyon, peut-être Lille. Et on a ouvert 15 villes en un an. Et en fait, au début, tu n'es pas connu dans la ville. Donc au début, tu pars sur un contenu générique de « tu peux te faire livrer tes restos ». Et en fait, on avait un séquençage. C'est tu peux te faire, t'expliques ton service, ton concept, pour que les gens comprennent ce que tu vends. Enfin, parce que sinon, si c'est pas possible. Ensuite, tu dis, fais-toi livrer les restos de ta ville. Donc, tu mets Lille comme ça. Déjà, il y a un engagement plus fort. Et ensuite, tu vas au resto. C'est-à-dire qu'on était du générique ville. Et ensuite, on allait, fais-toi livrer le burger le plus connu de ta ville. Et donc là, on allait au resto indépendant connu dans la ville. Donc les Nantais connaissent tous la plus grosse brasserie de Nantes qui fait les meilleurs burgers. Et en fait, celle-là a été la plus localisée, la meilleure en termes de performance. Mais si tu commences avec celle-là, en fait, tu n'as pas tout de suite ton coût d'acquisition optimisé. Tu as besoin de ton séquençage, de ton tunnel de marketing. D'abord, je fais connaître mon service, je fais considérer, et la préférence va venir avec ton contenu bien personnalisé qui touche au cœur. Ouais. Ah ouais, ce burger que j'ai, et j'ai la flemme d'y aller, mais là, je peux me le faire livrer. Donc, c'est vrai, ce séquençage qui est nécessaire. Donc, en fait, ton local sans ton générique, dans certains contextes, okay. Pas tous, ne fonctionnera pas. Donc, il faut aussi réfléchir à où tu en es en termes de produits, en termes de notoriété, pour voir à quel point tu peux localiser. Après, une question de coût, hein. C'est plus tu es local, plus tu multiplies tes contenus et c'est quelles sont tes ressources.
Mais ça me fait vraiment penser à ce que disait finalement Brieux un peu, qu'il faut lier finalement le local, enfin entre le générique, tu disais, et justement le local, et prendre du temps. Quand tu dis le vrai food day au début, on n'y attend pas spécifiquement grand-chose. Et puis après, ça prend le temps de cartonner et de revenir et de mailler ce réseau, etc. C'est un peu pareil, tu dis on n'arrive pas dans une ville tout de suite en disant c'est tel burger qui est le meilleur. Et le deuxième point, c'est que moi je me souviens quand on a travaillé ensemble, quand tu étais chez Deliveroo au nom du Love Words, qui vous faisiez des articles pour du référencement naturel SEO qui venaient promouvoir certains restaurants, et on voulait des rédacteurs de Grenoble pour justement promouvoir, pour savoir écrire que dans telle rue il y a tel resto, et qu'en fait si le rédacteur n'habitait pas Grenoble ou ne connaissait pas cette rue ou ne connaissait pas ce restaurant là, ça allait pas forcément fonctionner et ça allait pas se voir derrière, alors qu'on pourrait se dire que qui dit performance SEO, on a nous un prisme de métier aussi où on sait qu'il faut mettre le bon mot au bon endroit, la bonne densité de mots pour que ça finalement ça performe. Donc en effet il y a ce côté de voir le local avec au-delà de la performance, la personnalisation du contenu. Et peut-être que justement, Thibaut, moi, je voulais avoir ton avis sur les KPI, parce que j'imagine que l'une des promesses d'une solution comme la tienne, c'est quand même d'être plus visible, d'avoir plus de drive to store et tout ce qui est un peu business et comment y arriver. On sera dans la partie des ateliers. Mais je pense que c'est important aujourd'hui justement d'en parler. Donc, c'est quoi un peu les 2-3 KPI que les marques avec lesquelles tu travailles ou viennent te voir pour?
Ouais, ça c'est un point. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Brieux, parce qu'en fait, de plus en plus, nous, historiquement, on travaillait avec plein de distributeurs, donc des gens qui ont un ancrage local naturel, c'est-à-dire qu'ils ont un réseau de distribution. Et dans ce que disait Brieux, à savoir le réseau indirect, ça me parle beaucoup, parce que c'est une tendance qui est hyper forte en ce moment chez nos clients, c'est-à-dire qu'on a des marques qui n'ont pas de point de vente et qui viennent nous voir et qui nous disent comment je reconnecte avec chacun. Donc ils font des énormes congrès nationaux où on a la presse, mais on a aussi les opticiens pour Essilor. On travaille par exemple avec Essilor et dans leur programme pour réancrer la marque au niveau local avec tout un truc autour de notamment des affichages sur les Google My Business où on va mettre la marque, mais on travaille aussi avec Coca-Cola en Espagne sur le même sujet, Banette, il y a du Michelin, il y a du L'Oréal avec qui on teste. Donc en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est la connexion entre la marque qui est globale avec un réseau de distribution qui est local et de travailler ensemble, et ça m'a fait penser à ça, et je pense que c'est une grosse tendance qu'on voit en ce moment, des réseaux, enfin des marques centrales qui veulent. Pour ce qui est des KPI et qu'on nous demande dans ces cas-là avec Essilor, avec L'Oréal, c'est des KPI très très factuels, donc typiquement sur n'importe quelle fiche, sur n'importe quel annuaire, il y en a principalement 3, il y en a un quatrième qui apparaît qui est des messages, mais c'est nombre d'appels, nombre de demandes itinéraires et nombre de clics vers le site web. Donc, et après ça c'est les call to action, et après on a la visibilité. Les fiches qu'on gère, nous, elles sont vues 40 milliards de fois par an. Donc, en fait, toute la journée, vous tapez coiffeur,
presse, vous tapez n'importe quoi en fait sur votre portable. Et donc nous, on voit le nombre de fois où les gens voient ces fiches. Et la grosse tendance, en fait, c'est que avant, quand vous tapiez, vous tapiez machine à laver. En gros, vous tapiez machine à laver il y a 5 ans. Ce qui ressortait, c'était Electrolux, votre machine à laver. Aujourd'hui, c'est Darty Boulanger. Et donc, tous nos chiffres, naturellement, alors il y a le travail d'optimisation de contenu, etc. Mais naturellement, on voit que les KPIs augmentent. Donc, sur des projets avec Coca-Cola, etc., on va essayer de regarder, par exemple, le nombre de clics d'appels et de demandes itinéraires. Et après, ils vont regarder combien ils vendent de plus de Coca dans chaque magasin, chaque restaurant qui a été mis en avant. Ils arrivent à dire, dans les restaurants en Espagne, Coca, qui ont leur fiche Google optimisée, qui répondent à leurs avis, qui sont présents sur Waze, TomTom, Ear, Apple, etc., je vois que je vends plus de Coca. Et ensuite, avec ces KPI, ils l'étendent.
Ouais, hyper intéressant. Je ne pensais pas que les marques pouvaient faire un lien entre le nombre d'itinéraires choisis et ça paraît logique, mais et le chiffre d'affaires, ou en tout cas l'augmentation de la vente d'un certain produit. On a parlé d'augmentation, de KPI business et d'engagement et de portée. Tu en as un peu parlé, Brieux, en introduction, mais peut-être que ce sera le moment de revenir sur Adidas. L'exemple que tu avais, mais aussi le local justement en tant que tel a vraiment un impact sociétal pour une marque de plus en plus, un parce que ça lui est demandé par le consommateur, par le législateur, par les États, etc., mais aussi parce que elle s'y retrouve d'un point de vue justement business, portée, engagement. On se questionne quand même, nous consommateurs, et la presse, que je vous pose cette question en tant que consommateur, c'est quel est l'impact sociétal que peut avoir une marque, pourquoi elle le fait d'ailleurs, qu'est-ce que ça lui rapporte concrètement que Adidas aide des quartiers en mettant en place des gymnases, etc., que Vinci Immobilier là aussi va travailler sur le climat, non-artificialisation, etc. Voilà, c'est au-delà du fait que ça nous est demandé, de toute façon c'est le cas maintenant, mais voilà, pourquoi et quel impact ça peut avoir en tout cas sur une marque. Brieux, tu veux revenir peut-être sur ton exemple d'Adidas, comme ça je montre.
Moi, j'ai une boîte que j'adore, qui s'appelle Laka.
Ok.
Ils font de la RSE locale.
Ok.
Et en gros, je les connais très bien parce que c'est le partout de la RSE en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ça permet à n'importe quel magasin, type Leroy Merlin, de dire j'ai fait telle action RSE et vous avez un catalogue d'actions RSE. Et sur Laka, vous pouvez rajouter des choses, hein, par exemple une maraude ou n'importe quoi, et ça est disponible pour toute la France, et les gens peuvent les initier. Et ils répondent à deux grosses problématiques. La première, qui est la remontée d'informations locales sur les actions RSE, pour pouvoir, en fait, finalement, il y a plus d'actions RSE dans Leroy Merlin par magasin, plus d'initiatives que dans le central. Et je pense que, et ça c'est un peu ce que je veux autour de moi, tous les réseaux de distribution, la RSE et l'engagement sociétal, il va plus se jouer dans les magasins, dans les Burger King, que en centrale, où ils ont des budgets phénoménales qu'ils envoient sur des trucs nationaux, alors que la nettoyage des déchets à Nantes, dans telle ville, ouais, elle a plus d'impact pour le Crédit Agricole nantais, qui va prendre à ses employés, qui va dire on va faire quelque chose pour la communauté locale. Et c'est une super boîte, donc je la conseille fortement.
Ouais, non mais on le note, Laka.
Laka.
Laka. On le mettra dans les notes et on vous enverra tout ça. Notre équipe sur les réseaux sociaux va la promouvoir aussi. Non, mais super. Jean-Jacques.
Alors, paradoxalement, nous, l'attendu, il est moins business que une réponse à un truc qui est le juge de paix aujourd'hui, qu'on appelle l'acceptabilité. Ça veut dire qu'il faut que nos opérations et nos développements soient acceptables par les parties prenantes. Le maire, l'aménageur, mais aussi le client. Et donc, du coup, je pense que le volet RSE, c'est évidemment ce qui génère le plus de capacité à argumenter un modèle vertueux, frugal, respectueux. Voilà. Et après, il y a une notion aussi qui est plus liée à l'usage intermédiaire. Ça veut dire qu'on a l'opportunité de nous. On a un grand paradoxe, c'est que notre marque, elle meurt. Dès qu'on a vendu l'appart, la marque, elle est morte, en fait. Alors, on a une fréquence de réachat qui est à 11 ans, je crois, en moyenne en France. Donc, autant vous dire qu'on n'achète pas un appartement comme une baguette de pain, même comme une bagnole, qui est le deuxième produit le plus cher. Nous, on vend un produit qui est le plus cher, qui n'existe pas, parce qu'on construit en état futur d'achèvement. Donc, c'est-à-dire que le mec, il achète sur plan et il aura son appart dans 3 ans. Avec le cycle de relations commerciales le plus long, 3 ans où il ne se passe rien, donc il faut l'informer, c'est hyper anxiogène.
Et puis derrière, la marque elle, elle disparaît. Nous, le Graal, ça serait de dire vend appartement d'occasion Vinci Immobilier. Alors, ça serait top, mais malheureusement, c'est pas possible. Donc, c'est pas sur la marque qu'on va aller chercher la réponse. On va aller la chercher sur l'acceptabilité et la légitimité de la marque à faire cette opération à cet endroit-là. Donc, on va apporter des réponses très RSE. Tu as raison. Un sur l'usage et l'optimisation de l'environnement. C'est-à-dire que tu te fais une démolition à un endroit stratégique, je ne sais pas si vous connaissez Lyon, quand tu dégommes toute la part Dieu pendant 4 ans pour faire une tour qui fait 180 mètres de haut, tu mets un bordel énorme dans la ville, mais il faut que tu expliques aussi comment les usagers vont en retirer un bénéfice. Donc, premier bénéfice, la grosse démole, plutôt que de faire un truc, un gravat de pierre dégueu pendant 6 mois, on fait un graff monumental, on fait un musée éphémère, on fait ce genre de choses. Bref, c'est de valoriser en local avec un gros volet sociétal et sur l'emploi. Je prends mes antisèches parce que je ne connais pas les chiffres. On a une structure dans le groupe qui s'appelle Vinci Immobilier, Vinci Insertion Emploi. Et donc, on s'oblige à avoir de l'emploi local avec les associations, avec les éléments d'insertion. Donc, c'est 8000 salariés intégrés depuis 5 ans, 500 chantiers, 250 structures IAE ou IES, et c'est 3000 embauches de plus de 6 mois à la clé. Pour montrer que quand on vient, on n'est pas un sale bétonneux qui se barre, qu'on est inscrit dans la durée.
Finalement, vous faites, l'enjeu c'est de le faire savoir à beaucoup de gens, tu vois, justement, parce que vu que vous mettez en place ces initiatives qui amènent à plus d'impact sociétal positif ou à des démarches RSE qui sont positives elles aussi, peut-être que l'enjeu c'est justement de continuer à d'autant plus le faire savoir sans tomber justement dans le greenwashing.
Non, il ne faut pas faire du bullshit, mais après, mais c'est ce que tu disais Fanny tout à l'heure, c'est aussi toute la carburation entre le local et le national, c'est que localement, moi je peux ne pas avoir une opération à développer, j'adorerais avoir une opération à Saint-Cloud, à Puteaux ou à Vincennes, mais peut-être que pendant 2 ans je ne vais pas en avoir. Comment j'occupe le terrain et sur celles qui sont à proximité dans lesquelles les gens vont se projeter, comment je passe des messages qui vont leur permettre de dire « Ok, c'est sérieux, c'est respectueux, c'est économiquement crédible » et d'aller sur les deux tableaux pour faire en sorte que le jour où on a une opportunité, il y ait. Moi, je ne crois pas trop à la préférence de marque dans notre métier, mais au moins un capital sympathie et crédible.
Et toi, Fanny, justement, l'impact sociétal de Blablacar ou de Deliveroo avec du marketing local?
Ouais, en fait... Ce que je dirais, c'est que dans cette notion, on parlait tout à l'heure de mémorisation, c'est plus toucher au cœur, c'est un peu qu'est-ce qui va faire bouger les gens en termes de comportement. Et donc, si tu veux avoir un impact sociétal, c'est que tu veux faire bouger les comportements, les habitudes de vie. Et en fait, on sait que les messages institutionnels de type 5 fruits et légumes par jour, on nous l'a tellement martelé que maintenant, on l'a tous en tête. Est-ce que vous avez changé vos habitudes ? Peut-être un petit peu, peut-être que ça a évolué, je pense que ça a évolué. Mais ces messages-là, s'ils ne sont pas martelés en mode très très souvent et c'est une obligation légale, ça ne passerait pas. Donc en fait, pour faire bouger les gens, il faut qu'ils aient un sentiment d'acceptation. Donc je pense que l'acceptabilité, c'est une notion intéressante. Et en fait, le sentiment d'appartenance, il est proche. Plus c'est proche de toi, plus tu te sens appartenir au groupe. Donc on se sent plus proche de sa famille, de son groupe de collègues les plus proches. Et plus tu t'éloignes, moins tu te sens appartenir. Donc plus le message est localisé plus proche de toi, plus le sentiment d'appartenance, de fierté et l'envie de t'engager va être fort. Donc en fait, c'est là où je lis le sociétal et le local, c'est que ton message de marque locale va te permettre d'engager et de ce que les gens aient envie de changer leur comportement et faire quelque chose. Après, nous, Blablacar, en 2019, pour le covoiturage, donc, comme je disais, c'est plutôt en région, on a fait une campagne d'affichage où on disait, dans telle ville, il y a eu tant de covoitureurs. Donc c'était, 12 000 covoitureurs dans telle ville, et on avait donc localisé, donc ça faisait beaucoup de contenu à faire partout. Et en fait, pour engager les gens, c'était un jeu concours, les gens se prenaient en photo devant l'affichage pour dire, je suis fière d'habiter là et je fais partie des 12 000. Et en gros, on faisait un jeu concours, etc. Et c'est ce sentiment de fierté d'appartenir au groupe qui fait changer les choses. Et donc, pour moi, c'est ça. C'est local parce que si tu veux faire bouger les gens, il y a un moment, il faut avoir quelque chose qui va sur lequel ils ont envie d'agir. Et ce n'est pas des messages nationaux, génériques, institutionnels qui font bouger les gens, malheureusement. Il faut que ça soit quelque chose de plus fin.
Ce point-là, pardon, relatif à l'appartenance. Sur les 5 fruits et légumes, moi j'ai eu l'injonction avec mes potes qui sont mis au boost, qui ont mis à courir. Et puis tu commences, tu fais moins de sport, donc tu prends du bide, donc tu dis à Mandé, mais il faut courir, il faut être fit, parce que tout le monde est fit, qu'est-ce que tu veux, il faut être fit. Et puis ils me disent, bah, viens courir. Tu viens courir une fois, puis en fait l'ambiance, est... moi j'ai pas du tout envie de repartir courir avec eux. Je préfère courir tranquillement sur le canal, m'arrêter 2-3 heures, repartir, prendre le temps. Quoi. Et en fait ce sujet-là, parce qu'à un moment donné, on s'est posé la question beaucoup avec Paris 2024 sur le sport santé, parce qu'il y a quand même une injonction à dire si tu fais pas de sport, t'es qu'une merde. En fait, c'est un peu ça le message qui revient régulièrement dans les articles et dans le reste. C'est ultra violent. C'est ultra violent pour une partie de la population. Il y a la moitié de ce pays qui a jamais fait de sport, qui veut pas entendre parler. Et on lui oblige, on lui dit franchement, le sport, c'est génial, les valeurs. Et donc, à force de forcer le message, en face, ça crée des boucliers de résistance qui, à un moment donné, finiront par péter. Soit du rejet complet, soit des campagnes de contre. Et ça, on ne le voit pas venir tout le temps parce qu'on se dit bah, c'est une évidence. Mais c'est une évidence de là où on parle. Le truc qui manque entre le sport et la santé, et qui est commun à ce que tu disais sur la question des fruits et légumes, et ce qu'on travaille un peu nous avec des histoires et vous aussi, c'est un peu une dimension de plaisir. Parce qu'en fait, si tu dis je fais du sport, je vais maigrir et donc je serai heureux, je te jure que moi, il y a des jours, je ne vais pas maigrir, je suis très content. Donc en fait, peut-être que si j'ai fait un truc qui est très kiffant, et que c'est très kiffant et que je transpire, je vais maigrir. En cascade, en fait, j'ai touché une case au début qui est celle du plaisir. Et elle marche pour tout. Donc, ce n'est pas que de l'appartenance à un groupe ou d'être solidaire d'une collectivité. Ça peut être aussi très individuel et très intime. Et c'est surtout, je pense, de se reconnaître, de comprendre les motivations, de se projeter sur quelque chose qui touche quelqu'un. On parlait de toucher au cœur. Quand on regarde Ratatouille, par exemple, moi, je n'ai pas trop de proximité avec la souris dans l'absolu. Sauf que là, immédiatement, je vais comprendre ce que c'est que son combat. Je me dis, putain, c'est... Toute sa vie, elle a rêvé d'être chef, là, elle peut pas l'être, j'ai trop envie d'être à ses côtés. Et en fait, ce truc de comprendre la motivation de l'autre, c'est un mélange, on peut mettre ce qu'on veut, d'empathie, de bienveillance, de machin, d'écoute, mais prendre le temps de rentrer et de comprendre, à défaut de le partager, c'est déjà mais un énorme pas à faire sur le lien avec le local. Pour terminer là-dessus, je pense que dans toutes les boîtes, et c'est vrai pour le, on l'a dit pour le, peut-être le métier à vous, les nôtres, pour les marchands de presse, et c'est vraiment stratégie militaire et dans plein de domaines, il faut de plus en plus faire confiance aux gens qui sont au contact. C'est de là que tout va partir. C'est de là que vous allez voir très rapidement si ce que vous pensez est une théorie de mec qui a fait Sciences Po ou je sais pas quoi et qui est persuadé que le monde, ça se pense comme ça, ou non, c'est en train de partir et c'est ça qu'il faut voir. Réduire le temps de distance entre la personne en contact et celui ou celle qui la pense ou qui dirige, je pense que c'est aujourd'hui la qualité première d'une boîte qui a vocation à se dire agile ou à comprendre pourquoi le local a un impact sur nos activités. Quoi.
Et toi, Damien ?
Bah, sur l'impact social, ce qui est important quand même à noter, c'est le changement de rapport entre un consommateur et la marque. Aujourd'hui, avant, la marque était là pour répondre à un besoin, créer du désir et du coup, derrière, de déclencher un acte d'achat. Je pense que, évidemment, ça n'a été qu'une accélération parce que les tendances étaient déjà présentes avant, mais le Covid a amené de nouvelles aspirations. Et aujourd'hui, la marque se retrouve dans une autre position à devoir répondre à des aspirations et du coup d'écouter beaucoup plus le consommateur, et c'est ce qu'elle avait déjà commencé à initier avec les réseaux sociaux, etc., avec les réputations, pour vraiment faire remonter ce que pouvait penser le consommateur. Mais du coup, c'est de vraiment d'avoir ce truc de répondre aux aspirations de ces consommateurs, de ces nouvelles attentes. Et d'arriver à le faire, du coup, c'est là où le marketing local est ultra important et la création du contenu avec une vraie spécificité locale est importante, parce que dès qu'on parle d'attente, d'aspiration, évidemment, il va y avoir des différences énormes au niveau des territoires. Et nous, par exemple, c'est un sujet qu'on traite avec Webedia avec la marque 750 grammes, parce que pendant le confinement, il y a eu une approche qui était totalement différente par rapport à comment se nourrir, comment cuisiner, etc. Le sentiment de vouloir cuisiner est beaucoup plus réapparu. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de farine dans les commerces pendant le confinement, etc. Et du coup, c'était de se dire, OK, nous, on peut amener, on peut être une sorte de source d'inspiration pour, au moment où il va rentrer dans un, je sais pas, une supérette, un marché, etc., bah, lui proposer des nouvelles choses, mais qui soient en lien avec une consommation responsable. Donc déjà, faire en sorte que ça soit de proposer des recettes avec des fruits et des légumes de saison. C'est tout bête, mais on trouve encore, c'est quand même une des choses les plus importantes dans l'impact, on va dire, RSE, etc. Aujourd'hui, on trouve quand même beaucoup de choses qu'on fait en dehors des produits et des légumes de saison. Voilà, donc c'est déjà amener les gens à travailler, à faire de la cuisine avec des produits de saison, et aussi après d'aller travailler en local, parce que au niveau local, ces producteurs locaux, bah, que vous soyez dans le nord, dans le sud de la France, vous n'aurez pas les mêmes produits. Et donc favoriser les produits qu'il y a en local pour inspirer les consommateurs à faire de la cuisine avec ce qui est fait en local. Donc c'est vraiment aujourd'hui un rapport, je trouve, qui est vraiment différent, et ce côté de répondre aux aspirations et aux attentes des consommateurs il est hyper dur. Il est vraiment hyper dur et je pense que c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour les marques. Quoi.
Il y a un peu de crainte aussi. La crainte du consommateur ou de celui qui va consommer le contenu ou la promotion ou l'image ou ce que va lui véhiculer la marque de est-ce que ça me parle vraiment ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est authentique ? Est-ce que ça suscite vraiment l'émotion chez moi ? C'est une marque derrière. Il y a un peu, enfin, je trouve qu'il y a un peu ce truc-là de se dire tiens, Erta m'amène à faire des recettes, tu vois, par des jeux concours et on a tous beaucoup de créativité pour amener les gens à bouger. Mais peut-être qu'il y a encore des freins qui restent sur tiens, c'est une marque, est-ce que c'est vraiment pertinent, est-ce que je peux écouter. Donc j'ai l'impression qu'il y a encore ce prisme-là, en tout cas, pas forcément aussi fortement, mais au sein des populations. Peut-être pour conclure cette table ronde et prendre quelques questions s'il y en a, que je suis hyper contente parce que j'ai l'impression qu'on a parlé de débats un peu philosophiques presque autour de la localité et c'est chouette, pas évident sur la partie marketing local. Mais si chacun d'entre vous pouvait justement revenir sur le principal enjeu de votre point de vue dans le cadre d'une stratégie de marketing local pour 2022, ça serait quoi, Brieux ?
Si c'est un enjeu à moyen ou long terme, c'est de survie pure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison en n'intégrant pas le local, il y a des risques de décès assez nombreux chez beaucoup de boîtes. Pas parce qu'en fait, ils se font mal leur boulot, parce qu'en fait, le changement de paradigme, il vient de plus en plus court, les cycles sont de plus en plus courts. Donc, si on n'est pas capable, dans notre métier à nous, de comprendre que c'est un peu con de tout mettre sur YouTube, alors que c'est créé il y a 10 ans et que l'algorithme il est plus long que sur TikTok, il nous ramène une génération de gens qui vont aller vers l'édito, etc., on fait une erreur. Mais on s'en rendra compte trop tard. Et on a de moins en moins de temps pour se rendre compte que les conneries qu'on fait sont létales. Donc ce sujet-là, je pense que c'est concernant le marketing local, c'est vraiment très courant.
On va faire passer.
Moi, ce serait plutôt faire confiance aux équipements locaux et collaborer. Et se dire que c'est pas parce que c'est des responsables de magasins qu'ils peuvent moins faire du marketing digital. Donc moi, c'est vraiment réapprendre à collaborer. Nous, on le voit, c'est une tendance de dingue. C'est dire, peu importe que la personne, les former, leur faire confiance et qu'ils puissent publier, participer au marketing digital local. Et à mon avis, c'est eux qui sont les mieux placés. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur les gens qui sont proches de la réalité terrain. Je veux dire, quand on a un avis qui dit que la personne n'est pas aimable, je pense que ce n'est pas au directeur marketing du réseau de s'en occuper, c'est la personne qui n'est pas aimable et ça fait bouger les choses.
On est un modèle quand même où il y a toujours la baston entre les Girondins et les Jacobins. Hein. En France, c'est quand même très, très prégnant, mais c'est la vérité du quotidien dans les relations qu'on a avec. Donc, le local, je pense qu'il est tellement source d'inspiration et surtout, il est tellement nourri d'expertise sous-valorisé par les élites parisiennes qu'il faut vraiment se nourrir des acteurs locaux parce qu'ils vont aller sur le territoire de ce qu'évoquait, c'est-à-dire à la fois Fanny, dans cette capacité à zoomer, dézoomer, pour créer une logique d'appartenance, de fierté et de plaisir. Après, si tu fais la déclinaison sur la cohérence, la pertinence économique, l'usage, le sociétal, c'est des surcouches qui sont top. Mais je pense que celui qui n'a pas compris aujourd'hui que le local, c'est un passage non seulement incontournable, mais critique pour assurer la pérennité de certains modèles, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud pour eux.
Du coup, j'ai réfléchi.
Ça y est.
ce qui est compliqué, c'est on en a beaucoup parlé, et je pense que pour prendre un peu le contre-pied en conclusion, il faut aussi accepter de ne pas savoir le faire ou de ne pas le faire à ce moment-là. Et donc, le timing aussi de est-ce qu'on a la maturité, est-ce qu'on a les ressources, est important. C'est-à-dire que je pense qu'en mode brainstorm, rêve, il faut se dire si j'ai aucune limite, qu'est-ce que je fais et jusqu'où je vais. Et après, de se dire, OK, par rapport à mes ressources, mes contraintes, ma maturité, mon timing, comment je le fais ? Parce que cette notion de maturité, et je pense que c'est ce côté dont vous parliez, de s'appuyer sur les gens locaux, est-ce qu'on le sent ? Est-ce qu'on sent que ça va être efficace ? Accepter parfois de se dire, OK, j'ai envie de faire ça, mais ce n'est pas le bon timing, je prends un temps de recul pour le faire bien, parce que si vous foirez le local... tu peux foirer une campagne nationale, il y a des gens qui s'en souviendront, d'autres qui s'en souviendront pas. Au final, c'est pas si grave, tu vois. Depuis ce matin, vous avez déjà vu 40 pubs, de toute façon, tu vas les oublier. Le local, s'il est foiré, il est vraiment foiré. Tu fais une blague sur la chocolatine dans le sud-ouest, tu peux te faire haïr pendant des années et les gens peuvent t'en reparler. Donc, il y a aussi des trucs de parfois le local, faut pas le faire.
C'était bien le contre-pied de la conclusion, justement. Et toi, Damien, justement ?
Évidemment, je rejoins tout le monde sur la partie décentralisation et implantation au niveau local. Non, ce qui est, en fait, c'est un vrai sujet et je pense que c'est la complexité justement de trouver la maturité et de comment s'organiser. Je vais prendre un exemple tout bête. Moi, aujourd'hui, si vous prenez Paris et en tout cas l'Île-de-France, etc., c'est 12 millions de personnes. C'est un Français sur 6. Donc déjà, ça biaise, si vous voulez, la manière où on va acheter, la manière où on va vouloir communiquer. Parce que tout d'un coup, si vous avez une implantation, on va dire, très parisienne, bah vous faites 70% du chiffre d'affaires, par exemple, sur l'affichage. Paris, Île-de-France, c'est 70% des budgets médias investis en France. Donc déjà, ça crée ce biais-là. Mais par exemple, si je prends le cas de Phoenix, on fait peut-être 70% de notre chiffre d'affaires Paris, Île-de-France. En revanche, les trois quarts de nos salariés sont au niveau local. Donc, il faut aussi arriver à prendre du recul et surtout construire l'avenir et accompagner les mouvements. Et je pense que le politique a un rôle à jouer aussi là-dessus. Là, je m'écarte un peu, mais je pense que c'est quelque chose qui est très important. De pareil, on parlait par exemple des politiques d'urbanisation, etc. Aujourd'hui, je trouve que le local a en tout cas toute sa part à prendre dans la transformation de la société. Et je trouve que c'est plutôt excitant parce que moi, qui est maintenant un néo-provincial, franchement, ça m'a ouvert des nouveaux horizons que je ne connaissais pas avant.
Et juste un point, j'ai l'impression que j'ai biaisé depuis le début avec la carte de France au début de la réflexion parce qu'on est rentré sur un truc très hexagonal et qu'en vérité, le zoom des zooms de potentiel, je ne sais pas comment l'appeler, licorne, boîte internationale qui est Blablacar et d'avoir une logique qui marche dans le reste des pays du monde, fait que le local, c'est bien, mais c'est le small is beautiful, c'est jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on va se continuer des enjeux de société et économique avec des titans qui vont arriver dans d'autres pays qui font qu'à un moment donné, si on est capable comme un jour, j'avais rencontré, c'est une parenthèse, mais c'était quand même le responsable de l'Agence française de lutte contre le dopage, qui était un biologiste, qui voulait m'expliquer sur une heure et demie, c'était fou, comment Didier Deschamps était aussi importante que finalement, c'est le cœur d'une cellule. Donc il m'expliquait comment la cellule revenait à son état initial. Et quelqu'un comme Didier Deschamps ou Koukou Makelele était le cœur du sujet vital et que ça s'expliquait très très bien par la biologie, que c'était son rôle majeur de revenir à l'état initial pour pouvoir avoir le maximum de densité, d'organisation et de structure. Ben là, c'est ça. C'est ce que notre désordre et notre conflit, notre chaos historique, et bien avant la révolution qui consiste à être français, ça nous aide quand on va devoir se resserrer sur des sujets qui sont les sujets de solidarité, de partenariat. Ce que les Chinois font très très bien en termes d'écosystème. Ils sont quand même assez forts maintenant à des certains endroits pour essayer de bosser à plusieurs sur des problématiques où individuellement ils n'y arrivent pas. Est-ce que ça, on saura le faire permettant d'avoir une réponse qui passe du micro-local au niveau mondial dans un temps record ou un peu organisé? Pas sûr qu'on y arrive spécifiquement, mais au moins c'était pour sortir un peu que du prisme local que j'ai indirectement provoqué aujourd'hui.